Bonjour, chers frères et sœurs. Content d'être avec vous virtuellement. Content de pouvoir terminer ensemble alors, cette série sur le livre de 1 Thessaloniciens. Avant donc d'entrer dans les détails, nous allons prier ensemble. Prions. Merci Seigneur que ta parole est une lumière pour nos pas. Et nous te prions, Seigneur, par ton esprit, alors d'éclairer notre chemin ce matin. Donne-nous d'être tes serviteurs, ceux qui suivent notre Maître, et donne-nous donc de progresser dans la foi, et cela par la puissance de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on se mette ce matin dans la peau d'un prof à l'école. Je ne sais pas si vous êtes prof et vous allez déjà demain à l'école ou si c'est un jour où vous devez enseigner virtuellement ou autre. Mais vous venez de donner des notes, disons-le, pour un travail de synthèse dans la matière que vous enseignez. Et vous venez de constater que, comme d'habitude, il y a toute la gamme de résultats. Il y a ceux qui ont bien réussi sur 20, ils ont eu 17 ou 20, ou un TB ou un R peut-être. Il y a d'autres qui ont plutôt 13 ou 14 sur 20, donc ça va. D'autres qui ont tout juste réussi 10. C'est un S ou peut-être un I, ou il y a d'autres qui ont raté complètement, donc un NI, nettement insuffisante. Et maintenant, vous avez 10 minutes dans votre cours avant d'aborder la matière suivante pour aider ces élèves par rapport à ce travail de synthèse. Alors, que faites-vous en tant que prof? Vous vous concentrez sur les faibles pour les aider à progresser? Car c'est eux qui sont en difficulté. Vous visez peut-être les meilleurs de la classe, car les autres ne vont jamais réussir, quoi qu'il en soit. Ou vous visez le milieu, pour qu'en moyenne, la classe dans son ensemble progresse. Ce n'est pas évident, je pense, en tant que prof, de choisir. Et de manière générale, on aimerait que chaque étudiant progresse, fait du progrès. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Moi, je suppose que j'essaierais, si moi j'étais prof dans ce sens-là, d'avoir un mot pour toutes les différentes catégories d'élèves. Car négliger ceux qui vont bien, c'est de pénaliser leur propre réussite et leur besoin d'encore progresser plus. C'est de courir le risque, si on néglige ceux qui vont bien, qu'eux, ils vont s'ennuyer. Ils seront distraits parce que ce serait trop facile ce qu'on dit pour eux. Ben, c'est la même chose dans la foi chrétienne. Au sein d'une église, nous avons tous, quoique nous ayons déjà comme arrière-plan dans la foi, tous besoin d'encouragement. Qu'on est sur le point de lâcher notre foi peut-être parce qu'on a du mal pour le moment, que nous luttons dans un domaine ou dans un autre, ou que nous allons plutôt bien, nous sommes stables et bien ancrés dans la foi. Et donc, j'aimerais vous demander, pour commencer, où est-ce que vous avez besoin de progresser si on vous posait cette question, vous, dans votre foi? Car si toutes nos prédications s'adressent à des non-croyants, si vous allumez votre chaîne YouTube et vous dites, bah, d'office, ce serait un message plutôt pour des non-croyants, qu'eux, ils doivent croire en Jésus. Alors, les croyants auront tendance à penser qu'une fois qu'ils ont placé la foi en Jésus, ben, il n'y a rien à faire en ce qui les concerne. Et l'inverse, si toutes nos prédications visent les chrétiens qui ont des problèmes ou des difficultés dans la foi, les chrétiens plus établis, stables dans la foi, auront tendance à penser qu'une fois dans la foi chrétienne, il n'y a rien à faire pour eux non plus, qu'eux n'ont pas besoin de la lecture biblique ou des conseils bibliques lorsqu'il y a un problème. Mais 1 Thessaloniciens corrige cette façon de procéder, n'est-ce pas? Rappelons-nous, les jeunes chrétiens à Thessalonique, dans cette église à Thessalonique, se portent bien dans leur foi. Ils font preuve de foi, d'amour, de persévérance. Mais Paul leur écrit, nous avons vu au chapitre 3, verset 10, pour compléter ce qui manque à leur foi. Progressez encore, il nous dit au chapitre 4, verset 1. Progressez encore, chapitre 4, verset 10. Encouragez-vous, chapitre 5, verset 1. Verset 11 du chapitre 5. Encouragez-vous les uns les autres. Et donc, on continue dans cette dernière partie de l'Épître avec cet appel de progresser, de nous encourager les uns les autres. Peut-être dans votre Bible, vous avez un sous-titre pour cette dernière partie à partir du verset 12 qui dit quelque chose comme « recommandation finale ». Moi, je trouve que c'est un peu faible de la part de ceux qui ont fabriqué nos Bibles, en partie parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit ici. Parce qu'ici, nous avons affaire à des indices concrets qui témoignent d'une Église en bonne santé, qui progresse. Donc, c'est ça ce que nous allons voir ensemble. Paul en parle, car ces indices sont importants. Importants pour les Thessaloniciens, importants encore aujourd'hui pour nous. Paul, il écrit à tout le monde. Vous avez peut-être vu ça à la fin du verset, à la fin de ce passage au verset 27. Nous vous demandons, frères et sœurs, verset 27, je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Non pas juste à ceux qui vont bien. Non pas juste à ceux qui luttent pour le moment. Non pas simplement à ceux qui ont besoin de placer leur foi en Christ, non, à tout le monde, que tous puissent donc progresser. Et Paul nous fournit dans ces derniers versets beaucoup d'indices dans très très peu de temps. Peut-être que vous avez constaté ça lors de la lecture. Il dit plusieurs recommandations, n'est-ce pas? Il y a donc une place pour donner de brèves exhortations sans devoir être exhaustive dans tous les détails. C'est ça ce que nous allons essayer de faire, nous, ce matin. Paul se construit, bien entendu, sur sa compréhension de qui est Dieu, de qui est l'homme, de qui est Jésus, de qu'est-ce que l'Église. Il a déjà abordé un certain nombre de ces points dans son épître. Et donc, maintenant, il arrive à mettre tout cela dans un ensemble pour nous donner quelques indices concrets d'une foi qui témoigne d'être en bonne santé spirituellement. Alors, quel est le premier indice? Verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez-les en très haute estime et aimez-les à cause de leur œuvre. Il s'agit donc, premier indice, d'une considération, d'une bonne attitude envers les responsables de l'Église. Ceux qui se donnent de la peine, ils vous dirigent, ils vous avertissent. Trois expressions là, n'est-ce pas? Donc d'abord, verset 12, ils travaillent, oui, se donnent de la peine, ou à cause de leur œuvre, c'est le même sentiment. Ces deux façons de parler, ils travaillent, se donnent de la peine, ils œuvrent, reprennent des mots employés déjà par Paul au chapitre 1, verset 3, lorsqu'il rendait grâce à Dieu pour toute l'Église à Thessalonique. Il parlait de leur travail d'amour, l'œuvre de leur foi. Et donc, si les chrétiens tous les chrétiens de l'Église font preuve de ces qualités-là, combien à plus forte raison cela devrait être le cas pour des responsables de cette Église. Paul lui-même, l'apôtre, dans cette lettre, nous parlait au chapitre 2 de sa vive affection pour les Thessaloniciens. Non seulement vous donnant l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, il leur dit, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Donc, il s'agit des responsables qui travaillent, qui savent ce que c'est de travailler. Mais la deuxième expression ici au verset 12, c'est que ces responsables dirigent. Ben, littéralement, le mot ici signifie « se tenir devant », comme un berger qui se tient devant ses brebis pour les protéger du loup. Ils doivent prendre le devant pour le bien du troupeau, pour nourrir, pour protéger, pour soigner le troupeau. Ce n'est donc pas qu'ils dirigent, eux, ces brebis pour dominer les troupeaux, mais pour prendre soin du troupeau. La troisième expression pour des responsables qu'il emploie, c'est avertir. Ces dirigeants avertissent, comme un père qui aime ses enfants, avertit aussi ses enfants. Lorsqu'il voit le danger d'aller dans la mauvaise direction ou de suivre un mauvais conseil, un bon père prend ce rôle d'avertir. Et de tels responsables qui font preuve de ces qualités-là, ont droit, nous dit l'apôtre Paul ici, à notre considération, notre très haute estime. S'il y a d'un côté le danger que les anciens dirigent mal, un autre danger soulevé ici par l'apôtre, c'est que les brebis n'apprécient pas être dirigées. Il ne s'agit pas donc d'estime pour des dictateurs qui cherchent à tout prix à insister que leur volonté prime au sein de l'Église sur tout le monde. Non, il ne s'agit pas d'estime pour ceux qui cherchent un gain personnel, ceux qui ne font rien à part d'un show, peut-être sur YouTube, pendant une heure ou deux le dimanche matin, ou qui cherchent des partisans à leur cause. Non, il s'agit d'une estime pour le travail assidu et parfois pénible pour le bien de la communauté. Cette combinaison des dirigeants qui travaillent de manière sacrificielle et de l'estime envers de tels dirigeants égale, fin du verset 13, une église en paix. Une église en paix. Bah évidemment, peut-être déjà, vous trouvez que c'est un peu délicat que moi, le pasteur de l'église, je vous prêche de ce verset ou de ces deux versets-ci. Dans un sens, c'est l'avantage de la prédication textuelle. On arrive à un tel passage. On doit l'aborder, non pas parce que je l'ai choisi, mais parce que le Seigneur nous le dit. Peut-être, c'est une occasion pour le pasteur qui se sert d'un tel verset, de régler un peu ses comptes. Vous devez tous faire ce que moi je vous dis. Prions donc, et merci déjà pour un grand nombre d'entre vous qui prient pour les responsables de cette église, responsables dans son sens large, pas uniquement le pasteur ou les anciens, mais des responsables. Prions pour que la paix soit maintenue dans l'église. Et nous ne prenons pas cela pour acquis. Il suffit de regarder, même dans notre association d'église, des histoires même récentes, de voir à quel point une telle paix est fragile si, dans un côté ou d'un autre, on ne respecte pas des consignes ici. Prions pour des responsables et des futurs responsables parmi nous qui cherchent le bien des brebis qui ont de l'estime pour de tels responsables. Malheureusement, il y a trop souvent des exemples des responsables qui veulent tout contrôler, qui manipulent les brebis pour insister sur leur volonté à tout moment. Notre Église connaît un nombre conséquent de personnes qui arrivent dans notre Église ayant expérimenté ce genre de contrôle, ce qu'on appelle parfois en anglais du « heavy shepherding », où le réflexe est d'avoir peur de ne pas suivre les responsables à la lettre dans des domaines où les Écritures laissent plutôt une liberté à des croyants. Mais notre Église connaît aussi ceux et celles qui tombent dans l'autre erreur, de tellement réclamer la liberté qu'ils traitent l'Église comme si l'Église n'est rien qu'un club de loisirs ou de sport. C'est-à-dire que j'ai mon abonnement au club, ça c'est une chose, mais je m'en sers quand je veux et comment je veux. Et la direction de ce club de sport ou de loisirs n'a rien à voir avec mes décisions de la mise en pratique de mon abonnement sportif ou de loisirs. Mais de traiter l'Église comme cela, c'est donc d'ignorer qu'il y a des domaines où les Écritures insistent pour que des responsables vous exhortent, vous instruisent, vous avertissent. Bien sûr, c'est possible de mettre fin à mon abonnement si cela ne me convient pas dans un club de loisirs ou de sport. Mais lorsque les responsables d'une église se donnent de la peine d'agir auprès des brebis selon les consignes bibliques, la bonne réaction, ce n'est pas de cesser à ce moment-là mon abonnement, de fuir, d'apporter vos difficultés dans une autre église, mais c'est plutôt de peser ce qu'ils vous disent. Premier indice, alors, une bonne attitude envers les responsables de l'église. Certains voient le verset 14 comme une continuation de ce que doivent faire les anciens, mais cette expression est employée dans la lettre pour s'adresser à toute personne dans l'Église. Et si les responsables avaient trois tâches, donc nous avons vu ces trois tâches, ici aussi nous voyons, à partir de la fin du verset 14, trois exhortations pour tout le monde. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc cela parle d'une responsabilité réciproque exercée les uns envers les autres. Oui, certains à l'époque, apparemment fascinés par les détails concernant la fin des temps, ne s'occupaient plus de leurs propres affaires, se contentaient de dépendre de la bonne volonté des autres au lieu de travailler eux-mêmes. Et de telles personnes, nous disent l'apôtre, devraient être avertis. Mais d'autres, qui sont abattus ou craintifs, qui manquent du courage, eux, ils ont besoin d'être consolés, réconfortés. Oui, parmi nous, certaines personnes, bien qu'ils connaissent le Seigneur, seront plus hésitants que d'autres sur certains points dans cette foi chrétienne. Peut-être un peu moins assurés que d'autres dans la foi chrétienne. Peut-être un peu craintif en ce qui concerne les difficultés que la foi chrétienne peut entraîner pour quelqu'un dans notre monde d'aujourd'hui. Consolez-les, nous dit l'apôtre. Et soutenez les faibles. Oui, ceux qui sont faibles physiquement, bien entendu. Ceux qui sont accablés par le COVID, par la fatigue, par les difficultés de la vie. Mais ceux aussi, spirituellement parlant, qui sont faibles, qui sont tentés de lâcher, qui sont tentés de suivre le monde tel que les médias et Hollywood nous la présentent, au lieu de suivre ce que notre Seigneur nous dit dans sa parole. Soutenez de telles personnes. Comment cela? Si on met un accent sur les petits groupes de prière actuellement dans notre Église, c'est afin de promouvoir un engagement suffisamment conséquent envers les autres dans ces temps où nous sommes éloignés physiquement encore plus des autres, à donc connaître un petit nombre de personnes de manière plus conséquente. Nous ne pouvons pas connaître tout le monde de manière très approfondies, mais nous pouvons connaître certaines personnes de manière plus approfondie. Pour être capable d'aider quelqu'un, pour l'avertir au cas où cela est nécessaire, pour consoler quelqu'un ou soutenir quelqu'un, et pour avoir le discernement de savoir lesquelles de ces trois choses nous devons faire, alors pour cela, nous avons besoin de mieux connaître quelqu'un. Ça va plus loin donc qu'un bref « ça va » après le culte lors d'un Zoom collectif. Mais ceci dit, ce Zoom collectif après notre culte peut permettre une introduction à quelqu'un pour pouvoir par la suite aller un peu plus loin. Et gloire à Dieu, je pense que nous pouvons dire qu'un bon nombre de personnes parlent d'un accueil chaleureux au sein de cette église locale. Merci Seigneur pour cela. Mais nous devons encore réfléchir ensemble si nous faisons preuve de ces responsabilités que nous voyons ici au verset 14. Est-ce que nous sommes en train d'exercer de telles responsabilités les uns envers les autres? Il y a beaucoup de pistes pour cela. Un message, un appel, un zoom individuel, une balade pour le moment, cela est permis en maintenant les distances, de la prière, de la participation régulière et assidue aux réunions d'église, peu importe mes autres responsabilités. Bon, une raison pour ne pas s'y mettre dans ces domaines, c'est parce que parfois nous trouvons que c'est un défi d'aimer ceux qui ne sont pas comme moi. Chez moi, je suis confortable avec ce que je connais, de devoir prendre l'effort d'aider ceux qui ne sont pas comme moi. Alors cela, c'est autre chose. Et je pense que cela nous aide à comprendre pourquoi Paul passe au troisième indice, où il y a encore trois exhortations. Fin du verset 14, donc. « Usez de patience envers tous. » Et puis, verset 15, « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. » Il s'agit donc d'une attitude bienveillante envers les autres dans ces trois exhortations. Les autres, voyez-vous, comprennent non seulement ceux et celles qui sont dans l'Église, mais également ceux et celles que vous connaissez ou que vous croisez en dehors de l'Église. Donc, il n'y a pas un comportement chrétien qui se manifeste uniquement lorsque nous sommes entre frères et sœurs. Il y a quelque chose de terrible de penser que je mets des habits chrétiens lorsque je suis avec des chrétiens, mais avec des non-chrétiens, je mets des habits non-chrétiens. Non. Envers un conjoint ou envers un voisin ou envers un plombier ou envers un technicien, envers un collègue, envers un inconnu dans le métro, envers un colocataire. Je ne peux pas réclamer mes habits chrétiens uniquement lorsque je suis avec des chrétiens. Non, je me comporte en tant que chrétien, là où le Seigneur me place. Et donc la patience, première exhortation ici, est essentielle, n'est-ce pas? Patience, lorsque quelqu'un voit quelque chose d'une autre manière que moi, que son analyse n'est pas la même que mon analyse sur une situation ou une chose. Patience, quand quelqu'un est moins vite à apprendre comment il faut se comporter, surtout si cela est le cas entre frères et sœurs. C'est difficile si vous voyez clair et vous dites « mais c'est normal ça ». Et tu vois que quelqu'un d'autre n'a pas encore cette clarté de réflexion. Patience avec celui qui ne se rend pas compte de ses propres fautes, tout en disant d'une manière claire et nette ce que d'autres ils ont comme faute, et peut-être vous-même ce que vous avez comme faute. Oh, il faut de la patience entre frères et sœurs lorsque cela arrive, n'est-ce pas? Peut-être patience pour des seniors, lorsque les seniors voient facilement les erreurs des jeunes. Et peut-être patience également de la part des jeunes, lorsqu'ils voient que des seniors ont du mal à s'adapter à de nouvelles habitudes. Usez de patience envers tous. Et ne rendez pas le mal pour le mal. Quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un d'autre par rapport à toi? Alors, quelle est la tentation? C'est de se venger en disant ta version des faits, de manière à ce que la part de l'autre dans cette affaire est accentuée au maximum et ta part dans cette affaire est minimisée au maximum. Un enfant, lorsqu'il est découragé avec l'un de ses frères et sœurs, parfois fait exprès pour que la faute de l'autre enfant soit dévoilée. Vous connaissez peut-être cela. « Maman, t'as vu ce que X il a fait ?» Ou bien s'il ne peut pas avoir ce qu'il veut, un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, pensant ainsi manipuler le parent de faire ce que l'enfant veut. Mais nous, les adultes, nous savons faire de même, n'est-ce pas? De notre manière adulte, bien entendu. De bouder, de rouspéter, de répandre sèchement par mail à quelqu'un, ou d'en parler au monde entier via des réseaux sociaux sans avoir parlé d'abord en privé à la personne, ou simplement de ne pas répondre à quelqu'un qui essaie de vous contacter, d'ignorer la personne par silence afin de le punir. Mais des chrétiens, dans l'Église comme à l'extérieur, nous dit Paul, doivent plutôt rechercher le bien. Au lieu de viser le mal lorsque tu interprètes les propos de quelqu'un d'autre, vise plutôt le bien de ce que l'autre dit. Au lieu de se réjouir lorsque vous entendez qu'une mauvaise chose est arrivée à l'un de vos adversaires ou à l'une des personnes que vous appréciez un peu moins dans l'Église, demandez comment vous pouvez faire, vous, pour bénir une telle personne. Et si vous avez trouvé cela difficile jusque-là, si vous êtes accablé par la difficulté de supporter un frère ou une sœur, alors nous avons besoin du prochain groupe de trois exhortations que Paul nous donne, trois traits de caractère qui témoignent d'une foi dépendante et reconnaissante. Que dit-il? Réjouissez-vous toujours, verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Toujours, continuellement, en toutes circonstances, ne signifie pas que ces choses se font 24 heures sur 24. Non, ces expressions parlent d'une attitude d'esprit en ce qui concerne notre vie quotidienne. Souvenez-vous que les Thessaloniciens avaient reçu cet évangile au chapitre 1, verset 6, avec la joie du Saint-Esprit, en dépit de grandes difficultés. Paul priait aussi sans cesse, il nous le dit, en remerciant le Seigneur pour cette église à Thessalonique au chapitre 1. Il rendait grâce continuellement. Donc ces trois exhortations sont indispensables pour la vie chrétienne, pour ta vie chrétienne. Non, ce n'est pas du théâtre tout cela pour masquer des cœurs troublés. C'est une attitude de dépendance, de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Jésus qui nous délivre, Adrien nous a rappelé de ça, n'est-ce pas? De la colère à venir. Jésus qui garantit que notre avenir est en sécurité, quoi qu'il arrive. Nous serons, fin du chapitre 4, toujours avec le Seigneur lors de son retour. Nous portons, chapitre 5, le casque de l'espérance du salut. Nous avons de quoi pour être réjouis, pour rendre grâce. Vendredi matin, il y a l'un de ces cinq groupes de prière qui rassemble surtout un certain nombre de femmes de notre Église, y compris André de Maillère. Je pense qu'André, si tu m'écoutes, tu seras gêné parce que tu vas entendre maintenant, mais sans ta permission, je vais quand même le dire. André nous a annoncé à Samuel et à moi, il n'y a pas longtemps, qu'elle pense qu'à son âge, avec ses difficultés de santé, que ce serait difficile pour elle d'assister une nouvelle fois au culte en présentiel, même après le moment de confinement. C'est triste. Elle nous a écrit ceci, sciatique, plus douleur hanche, plus bras droit douloureux de l'épaule au poignet, suite déchirure, ligament, plus crise Arnold, c'est beaucoup pour une petite madame. Je pense, elle a terminé en disant que présence église dimanche ou semaine, c'est fini. Après 52 ans de vie chrétienne intensif, cela ne me peine pas outre mesure, elle nous a dit. Chaque chose en son temps. Mais André, vous savez, elle prie. Elle prie pour elle-même, pour sa famille, pour son église, pour les responsables d'église. Elle continue à encourager les autres. Elle prie le vendredi matin, comme exemple, avec les autres. Et elle priait vendredi dernier, comme d'habitude, et vers la fin de la prière, comme j'étais aussi dans la maison, j'ai pu juste écouter ce qui avait été dit. Elle avait chanté deux lignes d'un chant qu'elle connaissait d'il y a longtemps. Moi, je ne connaissais pas ce chant, donc je lui ai demandé par la suite de quoi il s'agissait. Un chant très simple, et elle chantait ceci, ou elle disait ceci. Alléluia, alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia, Jésus m'a sauvé. Son sang m'a lavé. Bon, l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous toujours. Priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. C'est la deuxième fois où Paul nous dit de manière très claire la volonté de Dieu. Et il faut faire ici la volonté de Dieu. Il ne faut pas découvrir la volonté de Dieu. Au chapitre 4, c'était la sanctification. Et ici, c'est rassembler autour de la reconnaissance, la dépendance de Dieu. Il y a un dernier indice au verset 19 jusqu'au verset 22. Il s'agit d'un discernement chrétien concernant l'enseignement. Encore trois exhortations, vous voyez ici. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout. C'est probable que cette exhortation a lieu suite à une méfiance dans l'assemblée concernant l'enseignement de certaines personnes à propos de la fin des temps. On abordera cela un peu plus tard dans la série dans 2 Thessaloniciens qu'on va continuer à partir de la semaine prochaine. Mais 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2 nous dit ceci: ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublé par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Avec de telles personnes qui disent de telles choses parmi des Thessaloniciens, c'est clair que cela aurait suscité une crise de leadership dans l'Église. Je fais confiance à l'apôtre Paul, ou j'écoute alors maintenant ces soi-disant un prophète. Et pour ceux qui font confiance à Paul, qui ne cèdent pas à l'influence de ces faux docteurs, on peut aussi comprendre pourquoi ils seront dès lors tentés de mépriser les prophètes. Mais il ne fallait pas les mépriser, il fallait plutôt les examiner, voir s'il s'agit des vrais prophètes, des vraies prophéties. Dans le passé, moi, j'aurais dit que ceci est dû au fait que la prophétie d'aujourd'hui peut contenir en partie de l'erreur, qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Ce n'est pas comme les prophètes de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, je dois avouer que je suis plutôt de l'avis que ce don de prophète fait plutôt partie des dons fondateurs de l'Église chrétienne. L'Église qui est fondée, d'autres textes nous le disent, sur le message des apôtres et des prophètes. Ils prêchaient, ces apôtres et prophètes, dans l'ère du Nouveau Testament, le message que nous trouvons aujourd'hui dans les pages du Nouveau Testament. Pour nous, alors, de ne pas mépriser les prophéties, c'est plutôt une question de continuer à croire que ce que la Bible nous dit, malgré le fait qu'il y a encore aujourd'hui autour de nous ceux qui prétendent parler pour Dieu, mais ce que la Bible dit est plutôt digne de notre confiance. Il y a encore aujourd'hui ceux qui prétendent parler pour Dieu, mais pour dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible affirme. Peu importe votre couleur politique, entendre parler des soi-disant prophéties des églises dites évangéliques par rapport à la victoire présidentielle aux États-Unis de l'un ou de l'autre candidat, mais soyons honnêtes, c'était pour l'un des deux candidats lorsqu'il s'agissait des églises évangéliques. Cela doit nous faire rougir de honte qu'on parle au nom du Seigneur pour une telle supposition, une telle idée. Cela, ce n'est pas un mot des prophètes, c'est un mot des hommes, emballé comme si c'est un mot de Dieu. Les prophètes, eux, nous mènent à Christ. Nous avons ici dans la Bible tout dont nous avons besoin pour notre vie chrétienne. C'est là où nous trouvons la voie authentique de Dieu. Retenez donc ce qui est bien, ce qui est biblique, et cela nous amènerait à nous abstenir du mal sous toutes ses formes. Voilà donc notre checklist à la fin de ces 5 indices. Des indices qui avaient quel objectif, quel but? Notre progrès dans la foi. Ben c'est vrai, si vous avez toujours votre Bible ouverte, qu'à partir du verset 25, il y a d'autres recommandations qui suivent, mais celles-ci ont déjà été englobées dans celles que nous avons parcourues. La prière, l'amour fraternel, la force est de constater qu'avec la COVID, l'Église belge est contrainte à devenir plus britannique dans leur façon d'appliquer le verset 26. Devoir se saluer en maintenant la distance, ça fait du mal pour nous, croyons ici en francophonie, n'est-ce pas? Cela doit s'apprendre, mais pas pour nous, les Britanniques. C'est très bien de pouvoir maintenir notre distance, mais ça témoigne néanmoins d'un amour fraternel. Donc, on ne va plus aborder ce qui suit à partir du verset 25, mais j'aimerais terminer avec cette prière et cet encouragement au verset 23. Et 24. Car au cas où toutes ces recommandations, tous ces indices nous semblent lourds, Paul termine par cette prière et cet encouragement en tournant notre regard vers Dieu lui-même. D'abord, il y a la prière, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc encore un trio ici, n'est-ce pas, pour désigner l'ensemble de notre être, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il revient et que Dieu lui-même nous garde pour que nous soyons prêts à le rencontrer. Et puis il y a l'encouragement qui accompagne la prière, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Oui, c'est lui, notre Dieu, qui est bon envers nous, qui le fera. Nous n'avons qu'à nous confier en lui. Son œuvre est celle-là, par son esprit, en nous, pour que nous soyons sans reproche. Cela ne signifie pas parfait à tous égards, mais Paul, comme Paul lui-même disait, qu'il s'est comporté lui-même lorsqu'il avait proclamé cet évangile de Jésus-Christ aux Thessaloniciens. Il était sans reproche, chapitre 2, verset 10. Peut-être vous aussi, vous avez un parcours où, pour une raison ou une autre, l'Église vous a déçu. Bon, je réserve un mot ici à la fin pour vous. J'espère au moins que vous voyez à quel point que l'Église de Jésus-Christ doit ressembler à autre chose que ce que nous voyons dans le monde, une église où il y a une qualité de relation qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans notre société. Une église où l'Esprit de Dieu donc, est présent parmi son peuple. Une église dans laquelle le peuple de Dieu fait preuve d'appartenir à la lumière. Et ce Dieu qui est la lumière, un peuple donc, qui dépend de leur Dieu. Un peuple qui se confie dans les promesses de ce Dieu envers lui. Il est fidèle. C'est lui qui le fera. Donc, j'aimerais vous inviter à découvrir ce Dieu-là si vous ne le connaissez pas. Et j'aimerais vous encourager, chers frères et sœurs, à vous rappeler de la fidélité de Dieu. C'est lui qui le fera. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te prier que toi, le Dieu de la paix, que tu nous sanctifies toi-même tout entier, que tout notre être, esprit, âme et corps soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons que tu es fidèle, que c'est toi qui feras cela. Nous te demandons qu'ensemble nous puissions grandir, progresser, et dans notre façon de mettre ces choses en pratique, et dans notre confiance en toi, d'être à l'œuvre parmi nous. Que tu sois glorifié, nous te prions. Amen. Je recède ma place à Adrien.